ferai une très courte intervention pour pas justement pour laisser plus de temps aux autres intervenants. Et Stéphane Tonla enchaînera directement derrière moi. Tous les deux, on va vous parler un petit peu de la question de l'observation, du recueil du sensible à travers des dispositifs de captation ou par la parole. Après, nous passerons à... On fera un petit temps de débat. Après, nous passerons à Sophie Vaniche et Maria Claudia Galera, qui nous parleront plutôt de la dimension des émotions dans l'espace public. Et puis, nous terminerons l'après-midi par Jacques Lelive, puis Nathalie Blanc, sur les dimensions esthétiques, la place des artistes dans la mobilisation sur l'espace public. Et nous ferons notre débat final. Alors, pour des raisons de TGV, etc., on va essayer de terminer à 17h15, parce qu'à 17h15, beaucoup de gens devront nous quitter. Donc, je propose vraiment à chaque intervenant de respecter un petit peu son temps de parole, hein, 10-15 minutes. Et pour ma part, je vais essayer de faire un petit peu moins. Voilà. Alors, un petit peu moins, non pas pour vous présenter une proposition d'analyse, de recherche, etc., mais plutôt pour faire un plaidoyer que j'ai appelé « Parole donnée, parole rendue ». Ce petit plaidoyer vient après, pour moi, une dizaine d'années de travaux au Cresson, des travaux de projets urbains, mais aussi en ayant vu l'ensemble des travaux qui se font dans les différents laboratoires sur les récits et la parole urbaine. Alors, les quelques images que vous allez voir passer viennent d'un travail qui a été amorcé avec Stéphane Tonla et puis l'équipe des étudiants de l'IUP ici. Il y en a une sur la place de la République. En fait, peut-être vous le savez, la place de la République à Paris a engagé un processus de concertation en vue de son futur réaménagement. Le concours va avoir lieu là dans les mois qui viennent. Et dans ce cadre-là, la ville de Paris avait fait appel à Stéphane Tonla et puis après à nous. Ils se sont rendus compte que leur dispositif de concertation ou de connaissance des lieux, en fait, n'était pas in situ. C'est-à-dire que, grosso modo, tout se passait en réunion publique ou tout se passait dans des réunions très intéressantes de focus group ou des entretiens par Internet, etc. Et donc, ils ont souhaité qu'il y ait une dimension in situ pour rapport à la parole habitante. Voilà. Donc, on a proposé des marches commentées que Jean-Paul a théorisées il y a déjà pas mal d'années sous le terme de parcours commenté, qu'on a adapté à la question du projet urbain ici. L'objectif était de faire marcher collectivement des groupes de personnes de statut à peu près identique. Donc, par exemple, des habitants du quartier, des habitants de Paris qui n'habitent pas le quartier, des élus, la place de la République croise 3 arrondissements, des techniciens de la ville, des automobilistes, des cyclistes, etc. C'est-à-dire toutes les catégories de personnes, non pas en termes de catégories de classe sociale, comme on pourrait typiquement faire, mais plutôt en termes de rapport au lieu. C'est-à-dire quel rapport au lieu ces personnes-là entretiennent. Et donc, on organisait ces marches dans lesquelles il était juste question de décrire la place, d'en parler bien sûr en termes d'état des lieux, aussi en termes de projet, mais aussi en termes de vécu quotidien ou extraordinaire selon le type de personne. Les gens avaient des appareils photos et prenaient des images pendant ces marches-là. Et puis après, on se réunissait par groupe dans une salle de façon à projeter les images, mais surtout à débattre sur les points importants et débattre entre eux des éléments qu'ils avaient notés. L'ensemble de ces débats-là ont fait des livrets. Là, vous en voyez un, par exemple, qui sont des entretiens avec les kiosquiers. Donc, comme les kiosquiers ne pouvaient pas quitter leur kiosque, c'est des entretiens, mais sinon, c'est des démarches, des jours de manifestation, bien sûr, etc. Donc, toute une série de recueils de paroles, de récits. Le but n'est pas ici forcément de rentrer dans le détail de la constitution de ces textes, que Jean-Paul appelait des textes polyglottes, c'est-à-dire qui prennent les paroles en fait, chez différentes personnes et qui essayent de reconstruire un récit qui met en évidence à la fois les caractéristiques de ce qui a été dit, mais aussi les controverses qui ont pu être soulevées. Et pourquoi parole donnée, parole rendue, et pourquoi je veux plutôt faire ma présentation comme un plaidoyer? C'est pour dire qu'il y aurait 3 raisons à l'intérêt de ce genre d'action, de ce genre de recueil de paroles. première raison qui est à la rigueur discutable mais assez classique, c'est de se dire que les usagers ont une maîtrise des lieux, ma foi, ou les techniciens de la ville, que peu de gens ont, puisque c'est leur usage quotidien qu'ils soumettent, que l'on soumet à leur expertise. Et cette expérience-là, qu'on pourra appeler, Pascal, on dit souvent la maîtrise d'usage, eh bien, la solliciter, c'est pas forcément demander la question des souhaits pour le projet, c'est pas forcément la question de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas pour un lieu, mais c'est de recueillir cette expertise quotidienne. En espérant, bien sûr, que cette expertise-là puisse être dans quelconque projet d'intérêt pour du projet, mais souvent, ça va un peu plus loin, je dirais, pour la gestion urbaine ou les différentes instances qui s'occupent d'un lieu. Premier intérêt assez classique. Deuxième intérêt, ce serait plutôt de partager des représentations. C'est-à-dire que le fait de rendre cette parole, de rendre public ces textes-là, qui sont polyglottes, donc qui ne sont pas nominatifs, permettent de se rendre compte, en fait, des représentations de tout un chacun. C'est-à-dire le fait que, en tant qu'habitant d'un lieu, eh bien, on peut lire ce que les techniciens disent du lieu, ce que les gens qui n'y habitent pas en disent, ce que les élus en disent, ce que le groupe des automobilistes, le groupe des commerçants, etc. De manière à un petit peu faire un retour réflexif sur soi-même, de façon à mettre les gens en situation de projet et pas uniquement en situation d'expertise sur un projet, de validation ou pas, mais au contraire d'être en situation de réflexion. Et puis enfin, le troisième intérêt que l'on y voit, c'est aussi comme une espèce de condensé, une représentation du temps présent, puisque les lieux changent vite, bien entendu, et ma foi, cette histoire ordinaire, cette captation ordinaire des lieux, on n'en a pas si souvent l'occasion d'en avoir, et surtout, on n'a pas si souvent l'occasion de la rendre publique à ceux qui l'ont faite. C'est-à-dire, quelque part, ce plaidoyer-là est pour dire que depuis quelques années, nous essayons, à chaque fois que nous faisons des entretiens, des parcours, des rencontres, des vidéos, de rendre le corpus aux gens, de leur rendre à la fois leur parole, mais de leur rendre aussi multiplié par celle des autres, sans forcément présager de ce que ça rendra comme débat dans la sphère publique. Et donc, c'est un petit peu le point que je voulais amener, c'est-à-dire l'importance... que l'on soit dans une logique de projet professionnel ou dans une logique de recherche, d'avoir un temps de retour auprès des personnes qui ont participé aux enquêtes, qui ont participé au temps de travaux, un temps de retour qui leur redonne leur propre parole, mais qui leur redonne aussi celle des autres. Bien entendu, on peut aussi communiquer les analyses, on peut communiquer d'autres choses, mais redonner la parole brute ou monter et l'offrir comme ça à l'ensemble des participants est une manière que l'on teste en ce moment pour non pas être dans des logiques de concertation, puisqu'on est loin là dans des logiques de concertation, mais dans des logiques de mise en situation de projet, de mise en situation de réflexion et de prise de connaissance des récits, des discours des uns par rapport aux autres. Voilà. Donc, je propose qu'on enchaîne directement avec Stéphane.